Le message qui va suivre vous est présenté par l'église La Maison du Bâtisseur, avec pour orateur Luc Ondias, président fondateur et pasteur principal. Nous croyons qu'en l'écoutant, vous serez richement édifié en Christ. Pour plus de renseignements, vous pouvez nous contacter par téléphone au 04 65 60 56, par mail en nous écrivant à contact@lamaisondubâtisseur.com ou en vous rendant sur notre site internet www.lamaisondubâtisseur.com. Nous vous souhaitons une agréable écoute. Que Dieu vous bénisse.
Que nous sommes aujourd'hui enfants de Dieu comme non-croyants, croyants comme non-croyants, nous avons tous aujourd'hui une mentalité de ce qu'on appelle fonctionnaire. Fonctionnaire. L'emploi, le travail sont des sujets très importants dans la vie d'une personne. Ce sont des sujets très importants. Aujourd'hui, je ne vous apprends rien, au Gabon, il y a un fort taux de chômage. Il y a un fort taux de chômage à l'extérieur. Et si aujourd'hui il y a un fort taux de chômage à l'extérieur, c'est parce que c'est à cause de ce chiffre. C'est à cause de ce chiffre. C'est à cause de ce chiffre que la plupart d'entre nous ont du mal à trouver un emploi ou ont du mal, en tout cas, à trouver une activité dans laquelle ils peuvent s'épanouir. C'est à cause de ce chiffre qu'aujourd'hui, il n'y a pas suffisamment d'entreprises qui se créent. C'est à cause de ce chiffre qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes qui ne croient plus en ce pays. Aujourd'hui, il y a un fort taux de fonctionnaires. Un fort taux de fonctionnaires. Les fonctionnaires sont bien. Ils sont même très importants. Ce sont les administrateurs du pays. Et on a besoin des administrateurs. Et heureusement qu'ils sont là. Parce que si je ne précise pas ça, je risque de me faire tirer dessus par les fonctionnaires. Les fonctionnaires sont très importants, mais dans une nation, d'un point de vue économique, les personnes qui créent le plus d'emplois et de richesses, ce sont les entrepreneurs. S'il n'y a pas d'entrepreneurs, il n'y a pas de créateurs de richesses. S'il n'y a pas de créateurs de richesses, il n'y a pas d'emplois. Et s'il n'y a pas de créateurs de richesse et pas d'emploi, il n'y a pas de développement économique. Donc le pays stagne. Voilà le véritable problème. Mais pourquoi aujourd'hui il n'y a pas suffisamment de personnes qui se lèvent pour aborder ce thème? Mais c'est parce que tout simplement, il y a un gros manque de véritables entrepreneurs. Donc ma question aujourd'hui, ce matin, c'est, mais où sont les entrepreneurs de demain? Tu as la réponse. Ils sont là. Ils sont là. Aujourd'hui, tu es un entrepreneur potentiel. Et je vais te dire pourquoi. Je vais te dire pourquoi. Parce que tout simplement, tout le monde, chacun d'entre nous, nous sommes appelés à entreprendre. Et je vais rentrer en profondeur sur la signification de ce mot. Tu peux passer au slide suivant. Pourquoi est-ce que nous avons dit oser? Pourquoi est-ce que nous avons fait exprès de mettre le mot oser? Parce que l'une des caractéristiques, l'une des premières choses qui caractérise une personne qui entreprend, c'est un mot que l'on appelle l'audace. L'audace. C'est quelqu'un qui n'a pas peur de prendre des risques. C'est quelqu'un qui choisit de faire un pas en avant alors que tout le monde choisit de faire un pas en arrière. L'héritage est disponible, notre héritage en Christ, mais il te faudra manifester ton désir d'en prendre possession. En Christ, nous sommes bénis. En tant qu'enfants de Dieu, nous sommes bénis. Christ a payé un prix cher. Et Christ nous a donné ce qu'il a appelé le royaume. Et laisse-moi te dire ce matin que la clé de ton bonheur, elle ne se trouve pas à l'extérieur, elle se trouve dans le royaume. Matthieu 6, 33, Jésus-Christ a dit, ne cherchez pas de quoi manger, ni boire, ni de quoi vous vêtir, mais cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Toutes ces choses. De quelles choses il parlait? Prenez le temps de lire. Jésus-Christ a fait un discours que l'on a appelé les béatitudes. Et Jésus-Christ a énuméré un certain nombre de besoins. Manger, boire et s'habiller. Voici les trois principaux besoins que nous avons au jour le jour. Manger, boire et s'habiller. Et c'est après ces trois besoins-là que la grande majorité des gens courent. C'est après ces trois choses-là que la grande majorité des gens courent. Les gens se lèvent le matin, vont travailler, passent des heures en entreprise à faire un boulet qu'ils n'aiment pas. Tout ça pourquoi? Tout ça pour manger, boire et s'habiller. Certaines personnes parlent d'arrondir les fins de mois. Mais en fait, on a autour de nous aujourd'hui des gens qui sont malheureux. Malheureux. Et pourquoi on a autour de nous des gens qui sont malheureux? Tu pourras me dire, oui, mais tu sais très bien que beaucoup d'entre nous, nous n'avons pas le choix. C'est une réponse qui n'est pas valable devant le trône. Je n'ai pas le choix. Nous avons toujours le choix. Toujours le choix. Osez. Ton héritage concerne tous les aspects de ta vie. Personnel, familial, ministère et professionnel. Christ n'est pas simplement mort pour que tu sois guéri. Christ n'est pas mort Christ est mort pour que tu sois heureux. Christ est mort pour que nous soyons heureux. Christ est mort pour que nous soyons heureux. Et le jour où j'ai compris ça, le jour où j'ai médité la parole et le jour où Dieu m'a parlé par rapport à ça, j'ai dit, à partir d'aujourd'hui, je refuse d'être malheureux. À partir d'aujourd'hui, je refuse l'échec. Et je décide de prendre possession de mon héritage. Est-ce qu'on peut dire tous ensemble, prendre possession de mon héritage? Il y a un verset dans le livre de Luc, chapitre 15, verset 11, qui dit, un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de notre fortune qui doit me revenir. » Alors le père partagea ses biens entre ses deux fils. Vous savez quelle est la différence entre les deux fils? La différence entre les deux fils, c'est que le premier a fait preuve d'audace. Le premier s'est levé un matin et a dit, « Je prends mon héritage. Je n'attends pas que mon papa meure. Je décide de prendre mon héritage maintenant. » Il est entré dans le bureau de son père et a dit, « Est-ce qu'aujourd'hui, l'héritage me revient ?» Le père a dit, « Oui, si tu veux le prendre maintenant, tu peux le prendre maintenant. » Il a dit, « Alors donne-moi mon héritage. » Et pour ceux qui connaissent l'histoire, le deuxième s'est plaint à la fin parce qu'on avait fait plus de faveur à l'autre parce qu'il était parti et revenu. Et le père lui a répondu, « Mais ton héritage est là. Ton héritage est là. Tout ce qui est à moi est à toi et tu peux le prendre quand tu veux. » Et en fait, la grande différence entre les deux, c'était leur mentalité. L'un avait la mentalité de royaume, l'autre avait la mentalité d'esclave. J'ai même envie de rajouter que l'un avait la mentalité d'entrepreneur, l'autre avait la mentalité de salarié. J'expliquerai la différence tout à l'heure. Osez. Ensuite, entrez. Entrez. Pourquoi est-ce que je découpe les mots comme ça? Entrez dans un secteur d'activité et déployez le potentiel qui est en toi. Chacun d'entre nous, Dieu a déposé un certain nombre de choses en nous. Chacun d'entre nous. Personne ne vient sur terre vide. Ça n'existe pas. Croyant ou non croyant, ça n'existe pas. Chacun d'entre nous, lorsque nous venons au monde, nous venons avec des dons, des talents. C'est ce que la Bible appelle des trésors. Nous venons avec des trésors. Et la clé de notre bonheur, la clé de notre épanouissement personnel et dans tous les domaines de notre vie, c'est de pouvoir découvrir ce trésor. Rappelez-vous d'une parabole de Jésus-Christ qui dit, je ne me rappelle plus du passage, lorsqu'il dit, le royaume des cieux est semblable à un marchand qui trouva une belle perle dans un champ. Vous savez ce qu'il fit le marchand? Il alla et vendit tout ce qu'il possédait pour acquérir quoi? Le champ. Le champ. Juste à cause de la perle qu'il avait trouvée. Et ces trésors que nous avons chacun en nous, voici ce que Dieu attend de nous. C'est que nous soyons prêts, capables de pouvoir laisser tout ce qui a de la valeur pour nous pour acquérir et libérer tout ce qu'il a déposé en nous. Amen. Ensuite, prendre. Prendre quoi? Prendre possession de ce qui nous revient. Poser des actes. Passer à l'action. Bâtir une vie. Bâtir quelque chose à la gloire de Dieu. Créer de la richesse. J'insiste sur ce mot. Lorsqu'on parle de création de richesse, on ne parle pas d'argent seulement. L'argent est même un élément mineur en ce qui concerne la création de richesse. Celui qui s'arrête sur l'entrepreneuriat et qui passe tout son temps à parler d'argent est à côté de la plaque. L'argent est important. Mais je vous assure que je n'ai pas du tout besoin de perdre mon temps et perdre le vôtre pour venir vous parler d'argent pendant 2 heures. Nous avons des choses bien plus importantes à dire. Créer de la richesse. Aujourd'hui, l'entrepreneuriat est un très bon moyen de créer de la richesse et d'être une source de bénédiction pour notre pays et pour le royaume de Dieu. Et être un acteur économique de premier plan, c'est-à-dire en créant de l'emploi, en étant une solution financière, non seulement pour le royaume, mais aussi pour notre environnement. L'entrepreneuriat. Est-ce qu'on peut dire ensemble l'entrepreneuriat? Et on va aller doucement. On va aller doucement. On va aller doucement. Avant de rentrer en profondeur, on va ce que j'ai appelé poser les fondements. Cet après-midi, nous allons discuter, nous allons être plus pratico-pratiques. On va vraiment parler de création d'entreprise. Là aussi, nous allons parler de création d'entreprise. Mais je ne peux pas te parler de création d'entreprise s'il n'y a pas un certain nombre de choses qui sont intégrées dans notre mentalité. Parce que la création de richesses, l'entrepreneuriat, le royaume, c'est d'abord une question de mentalité. Vous savez quel était le principal problème de Jésus avec les gens? C'était leur mentalité. Le tout premier mot que Jésus-Christ a prononcé lorsqu'il a commencé son ministère, c'était « repentez-vous ». Repentez-vous vient d'un mot grec que l'on prononce « metanoia », qui veut simplement dire « changez votre mentalité ». La Bible Semeur le traduit « changez vos comportements ». Pourquoi ils disent « changez vos comportements, changez votre mentalité » Mais parce qu'il a pris le temps d'observer les gens. Et il s'est rendu compte que les gens n'avaient pas la mentalité du royaume. Les gens étaient pauvres, malheureux, misérables, ils souffraient. À plus forte raison, il s'adressait à son époque à des gens qui étaient en esclavage romain. Et il s'est dit, ok, avant que je leur parle des choses du ciel, va falloir que je fasse d'abord un travail de profondeur au niveau de leur mentalité. Et le principal problème aujourd'hui, à la fois de l'Église et à la fois des Gabonais, j'ai envie de dire, c'est la mentalité. J'ai même encore envie d'aller plus loin. Le principal problème de l'Afrique aujourd'hui, c'est la mentalité. Notre mentalité. Notre mentalité n'a pas été renouvelée. Et la toute première chose que Dieu fera lorsque tu entres en contact avec lui, la toute première chose que Dieu voudra d'abord changer, c'est d'abord ta mentalité. Tu veux que je te dise pourquoi? Parce que Dieu n'est pas religieux. Dieu n'est pas religieux. Le problème que Dieu a avec la grande majorité des personnes dans l'Église et même en dehors de l'Église, c'est que les gens pensent que Dieu est religieux. J'ai dit tout à l'heure que Jésus-Christ n'est pas venu mourir pour une religion. Jésus-Christ est venu mourir pour un royaume parce que c'est ce qu'il nous a donné. Luc 12, verset 32 dit « Ne crains point petit troupeau parce que votre Père a trouvé bon de vous donner quoi ? Le royaume ! Pas une religion. C'est pour cela que j'ai pris le temps tout à l'heure de vous poser une question. Si je te demande le matin avant de partir de me faire un gâteau au chocolat et tu me fais une tarte aux pommes, tu as tout faux. Ce que tu as fait est une bonne chose, mais ce n'est pas ce que je t'ai demandé. Jésus-Christ a dit allez par toutes les nations et prêchez la bonne nouvelle du royaume. Sais-tu qu'il y a beaucoup de bonnes nouvelles? Il y a beaucoup de bonnes nouvelles. Il y a beaucoup de choses qu'on dit, il y a beaucoup de choses qu'on enseigne qui sont de bonnes nouvelles. Si je viens t'annoncer que ma femme aujourd'hui est enceinte, tu vas me dire, waouh, c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. Mais ce n'est pas la nouvelle que Jésus-Christ a dit d'annoncer. Celle qu'il a dit d'annoncer, c'est le royaume. Et Jésus-Christ, pourquoi il était si différent des gens? C'est parce qu'il avait une mentalité de roi. Et les rois n'ont pas la mentalité d'esclave. Et c'est ce que nous retrouvons aujourd'hui le plus souvent dans l'Église. Nous retrouvons aujourd'hui beaucoup de chrétiens qui ont la mentalité d'esclaves, qui se comportent comme des esclaves et qui, à cause de cette mentalité, ne prennent pas possession de leur héritage. De leur héritage. Et nous allons poser les fondements. Premier fondement, le tout premier fondement, la toute première chose que tu dois savoir avant que nous parlions d'entrepreneuriat à ton sujet, la toute première chose que tu dois savoir, ce que Dieu veut à ton, ce que Dieu veut pour toi, c'est que tu réussisses. Est-ce qu'on peut dire ensemble la réussite? Dieu veut que tu réussisses. Et je vais vous dire pourquoi j'ai utilisé ce mot, réussir. Parce que nous voulons tous réussir. Nous voulons tous réussir. Nous voulons réussir au niveau personnel, familial, la vie de nos enfants. Nous voulons voir nos enfants heureux et prospérer. Nous voulons réussir dans nos finances. Nous voulons réussir dans nos projets. Nous voulons réussir à tous les niveaux de notre vie. Nous voulons réussir. Et Dieu veut que tu réussisses. Et je vais te dire pourquoi Dieu veut que tu réussisses. Parce que il n'y a aucun fabricant qui crée un produit et qui ne veut pas voir ce produit réussir sur son marché. Dieu a pris le temps de nous créer. Quand tu prends la parole et que tu médites, tu lis et tu vois comment Dieu t'a créé, il a pris son temps. Il a pris son temps. C'est pour cela qu'un homme que j'aime beaucoup dans la Bible, qui s'appelle le roi David, a dit, « Seigneur, oh, je suis une créature si merveilleuse. » Voici ce que tu es aux yeux de Dieu. Une créature merveilleuse. Quand Apple vient de sortir le dernier Mac, Steve Jobs prenait le temps de s'asseoir sur son bureau et regardait son Mac et dit, « Oh, tu es une créature si merveilleuse. Une création si merveilleuse. Qu'est-ce que tu es beau. Qu'est-ce que tu es beau. Je t'aime. Tu es magnifique. » Lorsqu'un fabricant prend le temps de se préparer à la sortie d'un produit, je vous donne une image, il prend des années. Il prend des années à réfléchir sur le contenu, à réfléchir sur les fonctionnalités, à réfléchir sur comment est-ce qu'on va utiliser son produit, la valeur ajoutée qu'il va être dans la vie de la personne qui va se le procurer. Il prend le temps de réfléchir, il prend le temps de penser le produit. Il prend le temps de le penser. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'en parenthèse, ne te presse jamais pour te lancer dans l'entrepreneuriat. Prends toujours le temps. Prends toujours le temps de réfléchir à ce que tu vas proposer aux gens. Beaucoup de gens aujourd'hui échouent dans l'entrepreneuriat parce qu'ils proposent des choses soit médiocres, soit insuffisantes, ou soit qui ne sont pas une valeur ajoutée dans la vie des gens. Dieu veut que tu réussisses. Dieu veut que tu réussisses aussi parce que Dieu est un investisseur. Je vais appuyer sur ce mot. Il n'y a pas de plus grand investisseur que Dieu. Et je vais te dire pourquoi. Parce que Dieu a investi le plus grand investissement qu'il aurait pu faire en toi. Tu sais c'est lequel? Lui-même. Lui-même. Tout investisseur s'engage personnellement dans la réussite et la rentabilité de son investissement. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que lorsque un fabricant met sur le marché un produit, il va tout faire pour que son produit marche. Il va élaborer des plans, des stratégies, il va acheter des espaces publicitaires, etc. Mais il faut que son produit marche. Parce qu'il aura investi de l'argent, il aura investi du temps, il aura investi des ressources humaines et matérielles. Il faut que son produit marche. Et quand il est sûr que c'est un bon investissement, alors il est prêt à payer le prix. Et Dieu a payé le prix. Dieu a payé le prix fort. 1 Pierre 1,18 nous dit, vous savez bien à quel prix. À quel prix vous avez été libérés du mode de vie futile transmis par vos ancêtres. Souvenez-vous que votre rachat n'a pas été payé par de l'argent ou de l'or, ni par aucun bien susceptible de se dévaluer. Oh, j'aime ça. Non, il a fallu que Christ, tel un agneau innocent et sans défaut, verse son sang précieux pour vous. Voici le prix que Dieu a payé. Jésus-Christ aurait bien pu rester au ciel et à faire ce qu'il avait à faire et ne pas venir mourir pour toi et moi. Mais il l'a fait parce que tout simplement, il avait investi un trésor inestimable en nous, c'est-à-dire lui-même. Et Dieu ne voulait pas que ce trésor se gâche. La Bible nous dit encore, 1 Corinthiens 3,16, « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous ?» C'est pour cela que la parole de Dieu nous dit que le Saint-Esprit est très précieux et très important. Ne l'attristez pas. Il est la personne la plus importante dans la vie du croyant. Et Dieu est un investisseur. Dieu investit le meilleur en nous. Et il veut que nous réussissions. Deuxième fondement, Dieu a tout fait pour et avec un but. Tu n'es pas le fruit du hasard. Il y a des gens autour de nous qui nous font croire que nous sommes le fruit du hasard. Que tu es descendant du singe. Quand tu te regardes dans le miroir, vois-tu un singe? Au nom de Jésus-Christ, je ne vois pas un singe. Je vois Christ resplendissant à la gloire de Dieu. Tel est ce que je vois lorsque je me regarde dans un miroir le matin. Même si tu n'aimes pas me regarder, Dieu, lui, il aime me regarder. Et lorsque quelqu'un vient te dire, « Oh, tu n'es pas beau, tu n'es pas belle, tu ne vois rien, tu dis, c'est pas grave, de toute façon, ton avis n'est pas important. » L'avis de Dieu et le mien, c'est la majorité absolue. Il n'y a que ça qui compte. Dieu a tout fait pour un but. Qu'est-ce que le but? Il y a un principe très important que nous devons comprendre lorsque nous lisons la parole de Dieu. C'est que Dieu fonctionne comme un investisseur. Comment fonctionne un investisseur? C'est que l'investisseur prend toujours le temps de réfléchir au but qu'il va donner à sa création avant de la créer. Et c'est lorsqu'il a fixé le but qu'ensuite il connaîtra la hauteur de son investissement. Est-ce qu'on me suit? Qu'est-ce que le but? Qu'est-ce que le but? Voici quelques mots qui définissent le but. Le but, c'est l'intention d'origine qui était dans l'esprit du Créateur. La motivation première de la création d'une chose, la raison d'être, le pourquoi. Lorsque tu vois le mot but, sache que derrière, c'est le mot pourquoi. Lorsque la personne qui a créé la chaise sur laquelle tu es assise, avant de la créer, il s'est posé la question, pourquoi vais-je créer cette chaise? Et c'est lorsqu'il a déterminé le pourquoi qu'il a déterminé la forme et le contenu de la chaise. Dieu fonctionne toujours comme ça. Le pourquoi, le résultat désiré, le fruit escompté, la raison fondamentale, le besoin qui pousse le fabricant à créer un produit, la cible à atteindre, l'objectif visé, le but. Est-ce qu'on peut dire avec moi le but? Dieu t'a créé pour un but. Comprendre le principe du but est capital avant toute chose. La clé du bonheur, la clé de ton bonheur, c'est de connaître le but pour lequel tu as été créé. La question existentielle, c'est pourquoi suis-je sur terre? La question que la plupart des gens se posent lorsqu'ils sont sur le point de partir ou quand ils sont, je ne sais pas moi. Pourquoi suis-je sur terre? Pourquoi Dieu m'a créé? Pourquoi j'existe? Pourquoi? Et lorsque le but, j'ai envie de dire encore, lorsque le but d'une chose n'est pas connu, l'abus est inévitable. Lorsque tu ne connais pas le but d'une chose, tu risques de mal l'utiliser. Lorsque tu achètes un appareil, par exemple électroménager, n'as-tu pas remarqué qu'il y a toujours une notice qui vient avec? Pourquoi le créateur de l'appareil prend le temps d'insérer à l'intérieur du paquet une notice? C'est pour t'expliquer le fonctionnement de l'appareil, pour ne pas que tu l'utilises mal. Le problème avec nous, c'est que nous n'avons pas pris le temps de comprendre le but pour lequel Dieu nous a créés. Et c'est pour cela que nos vies, nous les utilisons à mauvais escient. Nous les utilisons mal. Et c'est ce qui nous rend malheureux. Parce que nous ne comprenons pas qui est Dieu et ce qu'il attend de nous, sa création. Est-ce qu'on me suit? Aucune somme d'argent, quelle qu'elle soit, quel que soit le montant, ne peut remplacer la puissance, la motivation et la joie de connaître le but. Quand tu connais le but de ta vie, plus rien ne peut t'arrêter. Quand tu sais pourquoi tu es né, quand tu connais ton appel, quand Dieu t'a révélé la raison pour laquelle il t'a créé, plus rien ne peut t'arrêter. Tu sais que tu n'as plus rien à perdre. Tu sais que tout ce qu'il te reste à faire, c'est courir vers le but. Poursuivre le but pour lequel j'existe. Poursuivre le but. Est-ce qu'on peut dire ensemble, poursuivre le but? Troisième fondement, le but engendre automatiquement ce qu'on appelle le potentiel. Le potentiel. Le potentiel est un mot qui est très mal compris par la plupart des enfants de Dieu. Très mal compris dans l'Église. Très, très mal compris. Qu'est-ce que le potentiel? Le mot potentiel est le mot qui a transformé ma vie, je vous assure. Le jour où j'ai compris la signification de ce mot, à la lumière de la parole, ma vie a été transformée. Qu'est-ce que le potentiel? Le potentiel, en quelques mots, c'est ce que j'ai appelé des aptitudes dormantes, des capacités en sommeil, des talents cachés, pas encore révélées au grand jour, des réserves de puissance non utilisées, des réussites non manifestées, des victoires pas encore remportées, tout ce que tu peux être, mais que tu n'es pas encore devenu. Le potentiel, que quelqu'un dise le potentiel. Tout ce que tu peux faire, mais que tu n'as pas encore fait. Tout ce que tu peux accomplir, mais que tu n'as pas encore accompli. Le potentiel. Lorsque Dieu décide du but pour lequel il te crée, il va te créer, pour lequel il va t'envoyer sur terre, alors il détermine le potentiel qu'il va déposer en toi. C'est pour cela que tu es quelqu'un d'extrêmement important aux yeux de Dieu. C'est pour cela que tu es très important. Parce que Dieu a déposé en chacun d'entre nous ce qu'il appelle un potentiel. Sais-tu que quand tu te regardes dans une glace aujourd'hui, tu n'es pas la personne que Dieu voit demain? Tu n'es pas la personne que Dieu voit. Dieu connaît la fin avant même le commencement. Dieu voit ton potentiel. Lorsque Dieu se révèle à Moïse, Dieu l'appelle libérateur. Moïse lui voyait quelqu'un d'handicapé, moins que rien, un fuyard qui avait peur de retourner en Égypte. Dieu dit, c'est toi le libérateur. Il dit, j'ai entendu le cri de mon peuple qui est monté jusqu'à moi et je t'ai choisi toi pour aller le délivrer. Voici le but pour lequel je t'ai créé, Moïse, pour libérer le peuple d'Israël. Et c'est pour ça que sa route s'est arrêtée avant Canaan, parce que son but n'était pas de faire rentrer Israël en Canaan. Est-ce qu'on me suit? Libérateur. Le but, le potentiel. Je vais vous dire également ce que j'ai compris au sujet du mot potentiel. Potentiel. Lorsque vous rentrez dans la signification du mot potentiel, à la lumière de la parole, en hébreu et même en grec, vous trouvez dans la parole de Dieu une personne qui a ce nom, potentiel. Potentiel. Est-ce que vous avez déjà entendu le mot omnipotent? Qui porte ce nom? Dieu lui-même. Omnipotent. Est-ce qu'on peut dire avec moi omnipotent? Omni, dans omnipotent, il y a le mot omni. Le mot omni veut dire en hébreu tout. Tout. Et le mot potente veut dire potentiel. Omnipotent veut dire tout potentiel. Tout potentiel. Le Dieu qui a créé les cieux et la terre, le Dieu qui t'a créé toi et moi, s'appelle le Dieu de tout potentiel. Il crée les étoiles, il crée la terre, il dit que la lumière soit et la lumière fut. Il déverse il crée tout un tas de galaxies, les végétations, les animaux. Et quand il a fini de créer tout ça, il dit, je suis encore le Dieu tout potentiel. Il te crée, il dépose son esprit en toi et il dit, tout le potentiel que je suis, tout ce que je suis, tout ce que je suis, pas en partie, tout potentiel, c'est en toi. Voici ce que Dieu dit du potentiel. Et voici ce que Dieu dit de toi. Et voici ce que je voulais nous faire comprendre aujourd'hui. J'insiste sur ça parce que c'est extrêmement important. Extrêmement important. La Bible nous dit dans Genèse 1, 28, un verset qu'on connaît très bien, il dit, Dieu les bénit en disant, soyez féconds, multipliez, remplissez les eaux des mers et que les oiseaux multiplient sur la terre. J'ai pris le temps aussi de rentrer sur cette parole. Vous n'avez pas remarqué que les premières paroles que nous donnons à un enfant lorsqu'il vient de naître sont des paroles très importantes. Ce sont des paroles que nous déclarons sur sa vie. Ce sont des paroles très importantes. Faites très attention quand ton enfant vient d'arriver au monde. Les paroles que tu prononces sur lui sont très importantes. Les premiers mots sont extrêmement importants. Et lorsque Dieu crée toi et moi, l'homme, en la personne de Adam, Dieu dit une parole. Il dit cette parole. Il dit, sois fécond, multiplie, remplis les eaux des mers et que les oiseaux multiplient sur la terre. Sois fécond, multiplie, remplis la terre. Non, là il le dit. Là il le dit quand il adresse, il y a une erreur. Là il le dit quand il l'adresse à la végétation. Mais après il dit, sois fécond, multiplie, remplis la terre, assujettis et domine. Domine. Voici le but pour lequel tu as été créé. Dominer. Et Dieu dit une chose. La Bible dit, Dieu les bénit. Je vais m'arrêter sur ça. Dieu les bénit. Et le mot béni ici est un mot hébreu que l'on prononce barak. Et barak veut dire prononcer de belles paroles sur quelqu'un. Quand tu regardes ton enfant et que tu dis, ma fille, tu es merveilleuse, tu es en train de barak, tu es en train de la bénir. Et voici ce que Dieu a dit à ton sujet. Dieu a dit, sois fécond, porte du fruit, libère le potentiel qui est en toi, car j'ai déposé des choses en toi. Et tu dois les libérer, car la clé de ta réussite, la clé de ton bonheur, pour que ma gloire soit manifestée sur la terre, c'est que tu libères tout ce que j'ai déposé en toi. Amen. Potentiel. Quatrième fondement, on va aller vite. Accepter le but. La quatrième chose que tu dois comprendre avant de te lancer dans l'entrepreneuriat, le sujet qui nous réunit aujourd'hui, c'est d'accepter la raison de ton existence. Et c'est là que la plupart d'entre nous échouons. C'est que la plupart d'entre nous, nous n'avons pas accepté la raison pour laquelle nous sommes nés. Il m'est arrivé de discuter avec des enfants de Dieu. Et quand on leur parle de domination, ça les effraie. Mais pourtant, Dieu qui est un roi, ce sont des mots qu'il utilise couramment. Vous n'avez pas remarqué? Accepter le mandat de la domination. Lorsque Dieu dit « domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, sur les reptiles qui rampent sur la terre », Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Y a-t-il ici une quelconque domination sur une personne? Non. Dieu nous appelle à dominer. Sauf que la plupart d'entre nous, la compréhension du mot dominer que nous avons est erronée par rapport à la parole de Dieu. Les amis, je vous assure, il faut revenir à l'essentiel. L'Église doit revenir à l'essentiel. L'Église doit revenir à la base. Dominer, c'est le but pour lequel nous avons été créés. Qu'est-ce que ça veut dire dominer? Qu'est-ce que ça veut dire domination? Manager, contrôler, gouverner, influencer. Prenez le temps d'aller chercher la signification de ce mot en hébreu. C'est ça que ça veut dire. Mais ce sont des mots qui nous font peur. Pourtant, ce sont des mots pour lesquels, dans lesquels Dieu nous appelle à opérer. Manager, contrôler, gouverner, influencer. Dans le mot domination, il y a deux mots. Il y a le mot don et il y a le mot men, qui veut dire principal. Et don veut dire don. Don. Et c'est là que l'histoire commence. C'est là que l'histoire commence. Chaque être humain a pour but ultime de libérer ses dons et ses talents pour exercer son leadership et une influence dans le domaine de son appel. Quel appel? Dans ton domaine, nous ne sommes pas tous appelés à faire la même chose. Moi, je suis là, je suis en train de vous parler. Je suis dans mon domaine, mais ce n'est pas ton domaine. Il y a un domaine, il y a un lieu, il y a un secteur d'activité dans lequel tu es comme un poisson dans l'eau. Et tant que tu n'es pas rentré dans ce domaine, tu ne seras pas épanoui. Tu ne seras pas épanoui. Domaine. Don. Chacun d'entre nous, nous avons des dons différents. Il y en a qui ont le don de parler en public. Il y en a qui ont des dons dans la médecine. Il y en a qui ont des dons dans la couture. Il y en a qui ont des dons dans les médias, la logistique, la musique, le sport, la couture, la parfumerie, l'informatique, l'hygiène, la vente, l'infographie, domaine, don. Et beaucoup de gens sont venus me voir et m'ont demandé, Luc, je n'ai pas d'idée. Je n'arrive pas à trouver le domaine dans lequel Dieu m'appelle à me lancer en ce qui concerne l'entrepreneuriat. J'ai dit, mais c'est très simple. Il me dit, c'est pas si simple que ça. Je cherche, mais je ne trouve pas. J'ai dit, mais pourquoi cherches-tu? Regarde à ce que Dieu a déposé en toi. N'as-tu pas remarqué qu'il y a un certain nombre de choses que tu fais de façon très naturelle? N'as-tu pas remarqué qu'il y a un certain nombre de choses que tu fais avec beaucoup de facilité alors que d'autres rament pour le faire? J'ai habité pendant un peu plus d'un an avec un colocataire, un collègue de classe à l'époque parce que j'étais encore étudiant, très intelligent à l'école. Mais ce monsieur, ce jeune homme, lorsqu'il se mettait à faire la cuisine, c'était extraordinaire. Il n'avait jamais pris de cours de cuisine. Jamais. Mais il pouvait préparer pour toute une salle. Et un jour, je me suis arrêté, je lui ai dit, c'est ton don. Tu as reçu ça. Et il voulait se lancer dans autre chose. Quand il voulait entreprendre, je lui ai dit non, c'est ça qu'il faut. Parce que tu le fais de façon très naturelle et tu es excellent. Et si en plus tu travailles ça, tu deviendras le meilleur. Le don. C'est la réponse à la question, à quoi Dieu m'appelle? Regarde au don. Regarde les trésors que Dieu a déposés en toi. Regarde ce que tu fais naturellement. Regarde ce que tu fais avec beaucoup de facilité et avec passion. Lorsque tu le trouveras, tu découvriras que c'est lié au domaine dans lequel Dieu veut que tu sois épanoui. Amen. Cinquième fondement, on avance. Intégrer en nous le processus qui nous conduira à la domination. Là, on commence petit à petit à rentrer. Ce que je vous dis là, c'est extrêmement important. Parce que ce que je vais vous dire là, la plupart des grandes entreprises dans le monde ont compris ce principe. Tu peux passer le slide. Dieu dit, il te regarde quand il te crée et il dit, sois fécond. Qu'est-ce que ça veut dire, sois fécond? Sois fécond veut simplement dire porte du fruit. C'est pour cela que lorsque nous ouvrons la Bible en anglais, les Anglais ont traduit be fruitful. Sois fructueux. Porte du fruit. Porter du fruit, ça veut dire quoi? Le fruit est en toi. Quand on voit un arbre, on ne voit pas encore le fruit. Mais lorsque la saison d'après arrive, on voit le fruit. Mais le fruit était déjà là. Le fruit était déjà là. De toutes les créations de Dieu, il n'y a que les hommes qui ont désobéi, qui désobéissent à ce commandement direct de Dieu. Ils ne portent pas de fruits. Mais regardez la végétation autour de nous. Regardez les animaux autour de nous. Ils obéissent. Parce que Dieu a donné un ordre à sa création. Et sois fécond, c'est un ordre qu'il a donné à toutes ses créations. Lorsqu'il crée les animaux, il dit, soyez fécond. Il crée les oiseaux, il dit, soyez fécond. Il crée la végétation, il dit, soyez fécond. Et le sixième jour, il arrive à l'homme, il se parle à lui-même, il te crée et il dit aussi, sois fécond. Porte du fruit. Fais sortir ce qui est en toi. C'est la clé de ton bonheur. Fais-le sortir. Et ensuite, il dit, multipliez. C'est au pluriel parce qu'il s'adressait à l'homme et à la femme. Multipliez. Remplissez la terre. Assujettissez. Et dominez. Ce que vous êtes en train de regarder en ce moment à l'écran, c'est simplement ce qu'on appelle le processus de la domination. Vous êtes en train de voir aujourd'hui ce qui fait que des grandes succursales, de grandes entreprises dont je tairai les noms, c'est ce qui fait qu'elles sont toujours aux leaders, parce qu'elles obéissent à ce principe-là. Si tu veux te lancer dans l'entrepreneuriat, à partir d'aujourd'hui, s'il y a une chose que j'ai envie que tu retiennes aujourd'hui, c'est surtout ça. Parce que le jour où tu comprends ça et que tu suis ce processus-là, tu es obligatoirement obligé de réussir. Tu réussiras obligatoirement. Sois fécond, porte du fruit. Qu'est-ce que ça veut dire porter du fruit? Porter du fruit veut dire sois créatif. Produis quelque chose. Il y a un produit en toi que tu dois sortir. Et c'est de là que l'entrepreneuriat commence. C'est là que l'entrepreneuriat commence. C'est là que le processus de la domination commence. Libère quelque chose. Il y a des artistes qui vont écrire une chanson. C'est un produit. Il y a d'autres personnes qui vont écrire un livre. C'est un produit. Quelqu'un va créer un ordinateur. C'est un produit. Une autre personne va créer un service. Lorsque tu t'arrêtes pour acheter des gâteaux à la maman gâteau qui est à côté de chez toi, elle a un produit. Et pour acquérir le produit, qu'est-ce que tu lui donnes? De l'argent. Tu lui donnes de l'argent. Elle te propose un produit et tu lui donnes de l'argent en retour. Sache que si tu as un produit entre les mains qui plaît aux gens, sache que les gens, cela ne leur dérangera jamais de te donner de l'argent pour l'acquérir. Parce que lorsque ton produit est bon, les gens seront toujours prêts à payer pour l'avoir. Tu portes du fruit, c'est-à-dire tu produis quelque chose. Ensuite, Dieu dit, tu multiplies. Multiplier fait appel simplement à ce qu'on appelle dans le jargon du business l'industrialisation du produit. Tu l'industrialises, c'est-à-dire tu arrives à amener ton produit à un niveau où maintenant il faut le multiplier pour beaucoup plus de monde. Le jour où, par exemple, tu crées un commerce, et les entrepreneurs qui vont venir cet après-midi, certains l'ont fait, tu crées un commerce et qu'ensuite tu arrives au niveau où ton commerce, tu l'as tellement fait bien marcher que tu commences à le multiplier. Tu as créé un commerce à Ngunji, ensuite tu commences à créer un autre commerce à Okala, et ensuite tu en crées un autre à Ovendo, et ensuite tu en crées un autre au bord de mer, etc. Tu es en train de multiplier. Parce que quand tu multiplies, tu touches beaucoup plus de monde. Domination. Quand ensuite tu as multiplié, tu passes à l'étape de remplir. Aujourd'hui, les bouteilles de Coca-Cola que nous buvons tous remplissent la terre. Elles remplissent la terre. C'est la boisson la plus consommée aujourd'hui au monde. Pourquoi? Parce qu'ils ont rempli. Et parce qu'ils sont arrivés au niveau d'après qu'on appelle assujettir. C'est-à-dire qu'ils ont contrôlé. Assujettir veut dire contrôler. Contrôler quoi? Contrôler le marché. Contrôler les flux, les fluctuations, les échanges. Contrôler les monnaies. Contrôler. Et quand tu as réussi, quand tu as porté du fruit, quand tu as produit quelque chose, que tu l'as multiplié, que tu as rempli le marché de ton produit, que tu ensuite tu contrôles le marché, tu fais quoi ensuite? Tu domines. Le processus de la domination. Le jour où on intègre ça dans le monde de l'entrepreneuriat, le jour où vous intégrez ça dans le monde de l'entrepreneuriat, lorsque vous avez un business en main et que vous poursuivez la réalisation de ce processus, vous irez très loin. Sixième fondement, extrêmement important, avant de te lancer dans le business, comprends ce que j'ai appelé ta forme. Chacun d'entre nous, nous avons ce qu'on appelle une forme. Rappelez-vous, Genèse 2, verset 5. J'ai envie de m'arrêter une seconde pour dire, tourne-toi vers celui qui est près de toi. Et lui dit, il faut bien lire la Bible. Il faut bien lire la Bible. Beaucoup d'entre vous, lorsque vous lisez la Bible, vous passez très peu de temps à lire Genèse 1, 2 et 3. Mais tout est contenu dans Genèse 1, 2 et 3. Tout. Si vous comprenez Genèse 1, 2 et 3, vous comprenez toute la Bible. Vous comprenez tout le plan de Dieu en ce qui concerne son royaume et en ce qui concerne l'homme, avant et après la chute. Genèse 2, 5 dit, « Lorsque l'Éternel Dieu fit une terre et des cieux. » Juste avant ça, rappelons-nous, Genèse 1, 26, au sixième jour, Dieu dit, « Faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. » Et Dieu créa l'homme et la femme. Le mot « créer » ici, c'est le mot « bara » que l'on prononce en hébreu « bara ». B-A-R-A. Le mot bara, vous savez ce que ça veut dire? En Genèse 1, 26, ça veut dire créer à partir de rien. Dieu n'a pas regardé à la mer, Dieu n'a pas regardé au sol, Dieu n'a pas regardé aux oiseaux, Dieu a regardé à lui-même et a dit à partir de moi-même, à partir de rien, par la foi, parce que Dieu fonctionne par la foi, je vais créer une créature que je vais appeler l'homme, c'est-à-dire toi. Donc, parce que Dieu est esprit, l'homme est esprit. L'homme a été créé. Où? L'homme a été créé au ciel. Il y a des gens qui te disent que l'homme a été créé sur la terre. Faux. L'homme n'a jamais été créé sur la terre. La personne qui a créé l'homme, c'est le Père. La source, Abba, le créateur de toutes choses. C'est pour ça que Jésus-Christ dit que lorsque vous priez, dites Abba, qui êtes aux cieux. Parce qu'il est le créateur, il est la source. C'est de lui que viennent toutes choses. Et c'est lui qui nous a créés. Il est le créateur. Il nous a créé esprit parce qu'il est esprit. Nous sommes faits à son image. Nous sommes esprit comme il est esprit. Et ensuite, Genèse 2, 5, Dieu fait quelque chose de très particulier. Il dit, lorsque l'Éternel Dieu fit une terre et des cieux, aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre et aucune herbe des champs ne germait encore. Deux points. Car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre et, suivez bien, il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. Mais une vapeur s'éleva de la terre et arrosa toute la surface du sol. L'Éternel Dieu forma. Que quelqu'un dise forma. L'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Lorsque tu te regardes dans une glace, sache que tu es un être qui a été créé d'abord et ensuite tu as été formé. L'enveloppe qui te contient n'est pas toi. Ce n'est qu'une enveloppe. Nous sommes esprits. Et le jour où cette enveloppe arrête de fonctionner, tu es obligé de partir. C'est ce que nous appelons communément la mort. Mais la mort n'est pas négative. Dieu a tout créé pour un but. La mort n'a rien de négatif. Je choque certaines personnes. La mort n'est pas négative. La mort est simplement une transition d'une étape à une autre, après que nous ayons accompli ce que nous avons fait sur la terre. Voici en quoi consiste la mort. Nous avons été formés, yassar en hébreu. Qu'est-ce que ça veut dire, yassar, nous avons été formés? Ça veut dire, tu as été designé, tu as été façonné, tu as été structuré d'une façon particulière. Lorsque Dieu t'a regardé, il t'a façonné, il t'a structuré, il t'a pensé. Tu es une créature merveilleuse parce que Dieu t'a pensé. Avant de te créer, avant de te former, lorsque tu comprends ça, c'est-à-dire, il y en a qui naissent noirs, d'autres naissent blancs. Il y en a qui naissent avec un gros nez, d'autres naissent avec un petit nez. Il y en a qui naissent de grande taille, d'autres naissent de petite taille. Tout ça parce que derrière, il y a un but. Il y a un but. Tu n'as pas remarqué que certains chefs d'entreprise, lorsqu'ils recrutent, ils disent recherche assistant de direction, entre parenthèses, nous recherchons une femme. Donc toi, en tant qu'homme, tu zappes. N'envoie pas ton CV. Parce que tu ne corresponds pas à la forme. Dieu te forme parce que derrière, il y a un but. Il t'a façonné. Qu'est-ce que la forme? Étudie bien le mot forme. C'est un mot extrêmement important. Et c'est là que beaucoup d'entre nous péchons. Est-ce qu'on peut dire nous sommes dans les fondements? Nous sommes dans les fondements. Quand tu vas, je tenais à aborder ces points-là, parce que le jour où tu comprends ces points-là, tu ne vas plus te perdre. Tu ne vas plus faire tes choix par hasard. Tu ne vas plus chercher au hasard dans quel business ou dans quelle entreprise tu te lanceras. Tu ne vas plus essayer de comprendre qu'est-ce qui fait ta joie, quelle est la clé de ton bonheur, etc. Il faut d'abord que tu comprennes cela. Et Dieu prend le temps aujourd'hui de nous expliquer tout ça pour une seule raison, c'est pour que nous sachons qui nous sommes. Qui nous sommes? Le principal problème des enfants de Dieu aujourd'hui, c'est notre identité en Christ. Nous avons une identité. Mais tant que tu ne connais pas cette identité, tant que tu ne sais pas qui tu es, comment tu as été façonné, comment tu as été structuré, designé, et pour quel but, c'est-à-dire pourquoi, alors tu tourneras en rond. Forme. Lorsque tu veux prendre le temps d'étudier ta forme, commence d'abord par la lettre F. Qui suis-je? Découvrez et comprenez votre forme. Un, tu fais d'abord l'inventaire de tes dons. Je m'explique. Tu cherches à entreprendre. Tu veux te lancer dans l'entrepreneuriat. Tu veux accomplir un certain nombre de choses. Mais tu ne sais pas comment. Dieu te dit, la première chose qu'il te dit, c'est regarde d'abord à tes dons. Fais l'inventaire de ce que tu sais faire. Eh bien, fais l'inventaire. Une fois, il y a quelqu'un qui est venu me voir. Je raconte l'histoire de quelqu'un que je connais très bien qui s'ennuyait à l'école. Il avait fait des études et il n'était pas du tout passionné par son boulot. Mais il ne savait pas dans quelle entreprise se lancer. Et il nous demande, qu'est-ce que je peux faire? Après avoir réfléchi, il me dit, je dessine. Je sais dessiner, mais je dessine comme ça. Je dessine comme ça. Je dis, ok, ramène-nous ce que tu fais par le dessin. Et quand on voit ce qu'il fait par le dessin, on dit, waouh, mais tu as vraiment un vrai talent. Tu as un vrai talent. Maintenant, ce qu'il faut, c'est que tu développes ce don jusqu'à ce qu'il devienne une expertise. Et ensuite, quand tu atteindras l'expertise, tu pourras la vendre cher. Vous savez ce qu'il a fait? Il est parti s'inscrire dans une école de designer. Il en est sorti 3 ans après, designer et infographiste professionnel. Capable maintenant d'utiliser les nouvelles technologies. Et aujourd'hui, cette personne-là est à la tête d'une société qui fait dans l'infographie et le design. Et il est très heureux, je vous assure. Parce qu'il vit de sa passion. Et quand il vous offre ses services, c'est excellent. Tellement il est bon, parce que non seulement il y a l'expertise, mais il y a le don. Et il est passionné. Donc fais l'inventaire de tes dons. Deuxièmement, ouvre ta boîte à talent. Je vais t'expliquer. Quelqu'un va me dire, mais c'est quoi la différence entre un don et un talent? Le talent, c'est une aptitude naturelle avec laquelle tu viens au monde. Ok? C'est une aptitude avec laquelle tu viens au monde. Le don, ce que j'appelle le don, c'est ce qu'on t'a donné. C'est-à-dire, tu ne l'avais pas au départ. On te l'a donné. Et qui te l'a donné? Dieu. Lorsque vous voyez des gens dans le monde qui ne connaissent pas le Seigneur, qui ne sont pas en Christ, et qui sont très bons, on a tendance à dire, il a un don. Il n'a pas un don, il a un talent. Il a un talent qu'il a travaillé, développé, pour que ça devienne une expertise. Il a un talent. Mais lorsque tu nais de nouveau. C'est pour cela que naître de nouveau, c'est-à-dire donner sa vie à Jésus-Christ, est quelque chose d'extrêmement important dans la vie d'une personne. Parce que le jour où tu nais de nouveau, le jour où tu donnes ta vie à Jésus-Christ, tu te reconnectes avec ton Créateur. Tu te reconnectes avec le Créateur. Et quand tu te reconnectes avec le Créateur, il te fait découvrir les dons qu'il t'avait donnés à l'origine. Une enquête américaine a montré que chacun d'entre nous, nous avons plus de 700 talents. Pardon, talents. Chaque être humain, nous avons plus de 700 talents. Découvre juste un seul talent et développe-le, et ça peut te rendre heureux. Mais ce qui te permettra d'accomplir le but pour lequel tu as été créé, c'est le don. Ouvre ta boîte à talents. Troisièmement, reviens sur tes expériences passées. Regarde les expériences par lesquelles tu es passé. Il n'y a pas de hasard dans la vie. Si Dieu a permis que tu passes par des situations, par des épreuves, que tu aies une histoire aussi désagréable qu'elle puisse être, sache que cette histoire n'est pas le fruit du hasard. Dieu a permis que tu passes par cette histoire pour que demain tu puisses être le meilleur dans ce domaine à prodiguer les conseils qu'il faut. Oh oui. Pour ma part, j'ai passé des années dans l'immobilier. Et ensuite, j'ai passé des années à travailler dans le secteur des nouvelles technologies. Et aujourd'hui, lorsque Dieu m'a dit, regarde aux expériences passées, je me suis dit, ok, je vais créer une société qui fera dans les nouvelles technologies et l'immobilier. Je ne vais pas faire autre chose. Et c'est ce que je fais aujourd'hui. Est-ce qu'on me suit? Mesure les battements de ton cœur. Mesure les battements de ton cœur. Pourquoi ton cœur bat? Qu'est-ce qui fait battre ton cœur? Qu'est-ce que tu aimes? Tu veux te lancer dans l'entrepreneuriat? Qu'est-ce qui fait battre ton cœur? Qu'est-ce qui te met en colère? Qu'est-ce qui te fait jubiler? Il y a quelqu'un une fois qui m'a dit, moi ce qui fait battre mon cœur, c'est de voir les enfants heureux. Les enfants heureux. Pendant que toi, tu ne peux pas rester plus de 5 minutes dans une pièce avec des enfants qui crient partout, elle peut rester 2 heures, ça ne lui fait rien du tout. Parce qu'elle est bien au milieu des enfants. Elle a quelque chose avec les enfants. Et elle peut rester des heures et des heures et des heures. Toi, les enfants crient dans tous les sens, tu dis, silence, calmez-vous. Et les enfants ne t'écoutent pas. Mais elle vient, elle dit une parole, les enfants se calment. Elle a quelque chose avec les enfants. Peut-être que tu devrais te lancer dans une crèche. Pourquoi pas? Enfin, examine ta personnalité. Chacun d'entre nous, nous avons une personnalité. Et la personnalité joue un rôle très important dans le domaine du business, dans le domaine des affaires. Quelles sont les différentes personnalités qui existent? Nous avons les personnalités extraverties et nous avons les personnalités introverties. Vous avez déjà entendu ça? Dans les extraverties, nous avons les colériques et les sanguins. Et dans les introvertis, nous avons les flegmatiques et les mélancoliques. Prenez le temps d'étudier les personnalités et vous allez vous retrouver. Le colérique, pour passer rapidement, parce que le temps nous presse. Le colérique n'est pas celui qui se met en colère tout le temps, non. Contrairement à ce que beaucoup pensent. Le colérique est caractérisé par sa fougue, sa capacité à foncer. Il court. C'est-à-dire, il ne prend pas le temps de réfléchir. Il court, c'est tout. Quand il a quelque chose en tête, il le fait. On lui dit, mais tu devrais peut-être passer par réfléchir un peu. Attends, sois patient. Non, lui, il y va. Les colériques sont des gens qui prennent facilement le leadership lorsqu'ils sont dans un groupe. Ça, c'est le côté positif du colérique. Je peux m'étendre encore sur le colérique. Mais Le négatif, en ce qui concerne le colérique, c'est quelqu'un qui, parce qu'il fonce, parce que c'est un bulldozer, parce que c'est quelqu'un qui ne réfléchit pas quand il fonce, il fait beaucoup de mal. Il manque de tact. Il se pose des questions après. Il fait, et quand il se rend compte qu'il a blessé les gens ou qu'il a laissé les autres derrière, il se dit, oups, peut-être que je devrais aller moins vite. Ça, c'est le colérique. Mais c'est un très bon leader. Ensuite, nous avons le sanguin. Un très bon leader aussi. Qu'est-ce qui caractérise le sanguin? Vous savez ce qui caractérise le sanguin? Et les sanguins sont des gens très, très dangereux dans l'entrepreneuriat. C'est sa jovialité. C'est quelqu'un d'extrêmement relationnel. Le sanguin, tout le monde est son ami. C'est quelqu'un, il rentre dans cette salle, je vous assure, à la fin du séminaire, il vous connaît tous. Il aura tous serré vos mains. C'est quelqu'un, quand il va vers les autres, comment tu vas? Ça va? Il est souriant naturellement. Donc c'est quelqu'un d'extrêmement relationnel. C'est un très bon leader et un très bon entrepreneur. Et l'une des forces principales dans le monde de l'entrepreneuriat, c'est les relations. Et les sanguins sont très forts. Par contre, l'un des gros défauts chez le sanguin, c'est sa naïveté. C'est justement parce qu'il aime tout le monde qu'il se fait aussi avoir facilement. Ça, c'est le sanguin. Introverti. Chez les introvertis, nous avons les flegmatiques. Le flegmatique, vous voulez savoir ce qui le caractérise. Le flegmatique, ce qui le caractérise, c'est sa lenteur. Il est lent. Vous mettez un flegmatique avec un colérique, il y a problème. Il y a problème parce que le colérique, c'est un fonceur. Le flegmatique, lui, il prend son temps. Mais en fait, quand il prend son temps, ce n'est pas mauvais. C'est parce que c'est un analyste. Il analyse. Et il va lentement, mais sûrement. Donc, c'est quelqu'un aussi de très dangereux. Chez les flegmatiques, vous trouvez beaucoup de comptables. Ce sont des gens qui peuvent rester dans une pièce à analyser et à travailler pendant des heures et des heures, ce que le colérique ne peut pas faire. Sa lenteur. Par contre, un gros point négatif sur le flegmatique, c'est justement parce qu'il prend trop de temps à analyser que parfois, il manque des opportunités quand il faut les saisir vite. Un gros défaut chez le flegmatique. Et enfin, le mélancolique. Le mélancolique, vous voulez savoir ce qui le caractérise, le mélancolique? Ce qui caractérise le mélancolique, c'est un rêveur. Il rêve. Il a tout le temps la tête dans les nuages. C'est un rêveur. Mais c'est justement parce que c'est un rêveur que c'est quelqu'un de très, 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 très créatif. C'est pour cela que l'on retrouve beaucoup de mélancoliques dans le domaine artistique ou dans le domaine du design. Ce sont des mélancoliques, mais ce sont aussi des gens qui sont très émotifs. Ce sont des gens, il ne faut pas les vexer. Alors, ça, surtout pas. Et un gros défaut chez les mélancoliques, c'est qu'ils sont très, très pessimistes. C'est justement parce qu'ils ont toujours la tête dans les nuages que lorsqu'on lui dit, mais ça va, regarde, ça va, il va toujours te dire, non, ça ne va pas. Je ne suis pas satisfait. Amen. La forme. Et enfin, le dernier fondement. Très important. Embrasser le profil de l'entrepreneur par excellence selon Dieu. Est-ce qu'on peut dire ça ensemble? Embrasser le profil de l'entrepreneur par excellence selon Dieu. Ça, c'est très important. Et on commence à toucher à notre fin. Embrasser le profil de l'entrepreneur. Être entrepreneur. OK. On veut se lancer dans l'entrepreneuriat? Ben, il va d'abord falloir qu'on épouse une mentalité. L'entrepreneur, j'ai listé un certain nombre de choses qui caractérisent un entrepreneur. Voici une liste d'éléments qui font que beaucoup d'entre nous ne sont pas encore chefs d'entreprise. Parce qu'ils n'ont pas encore épousé ça. Premièrement, il est conscient de son mandat divin. C'est pour ça que j'ai précisé selon Dieu. Parce qu'il y a des entrepreneurs sans Dieu. Ils ne vivent que pour faire du profit. Que pour faire de l'argent. Point barre. Et ils en font de l'argent. Mais ils ne sont pas agréables à Dieu. Nous, on parle selon Dieu ici. OK? Il est conscient de son mandat divin, de sa mission, c'est-à-dire du but pour lequel il a été créé. Ensuite, c'est un visionnaire. Que quelqu'un dise vision. Tu ne peux pas entreprendre si tu n'as pas une vision. Je vais prendre le temps de développer ça tout à l'heure à 13h. Parce qu'on va parler vraiment de création d'entreprise et de développement d'entreprise. Et on va beaucoup parler de la vision. C'est un visionnaire, c'est quelqu'un qui voit loin. C'est quelqu'un qui poursuit un but, c'est quelqu'un qui poursuit une vision. Il a une forte personnalité, l'entrepreneur. Une très forte personnalité. Il a le goût du risque. Que quelqu'un dise risque. Vous voulez entreprendre, n'ayez pas peur de prendre des risques. N'ayez pas peur de prendre des risques. Beaucoup de gens sont assis dans des zones de confort et ont peur de prendre des risques. Parce que l'entrepreneur est quelqu'un qui est appelé à sortir de sa zone de sécurité. C'est quelqu'un qui prend des risques, et des risques très dangereux pour sa propre vie. Il a le goût du risque. Il déborde d'une imagination sans limite. L'entrepreneur, c'est quelqu'un qui rêve beaucoup. C'est quelqu'un qui voit loin. Il rêve et il poursuit un rêve. Il ne poursuit pas le profit. Si tu te lances dans l'entrepreneuriat en te disant que tu ne vis que pour le profit, tu as échoué avant même d'avoir commencé. Parce qu'un véritable entrepreneur est quelqu'un qui vit d'abord d'une passion et non pour l'argent. L'argent, ok, on va faire une parenthèse sur l'argent. J'ai refusé de parler d'argent pour ne pas qu'on se dise on a parlé d'argent ici, mais bon, je veux quand même faire une toute petite parenthèse en ce qui concerne l'argent. Vous savez, par la grâce de Dieu, je dis par la grâce de Dieu, Dieu m'a fait la grâce de faire 6 ans dans le domaine de la finance en France. J'ai travaillé dans le domaine de la finance et j'ai vu passer beaucoup d'argent devant mes yeux. J'ai rencontré comme ça des gens qui avaient énormément d'argent. Et quand je parlais avec ces gens, en échangeant avec eux, en leur posant des questions, je me suis rendu compte, mais en fait, ces gens ne poursuivent pas l'argent. Ces gens ont compris comment fonctionne l'argent. Et ils ont compris les mécanismes à enclencher, à mettre en place pour que l'argent arrive facilement. Un entrepreneur, un créateur de richesse qui a compris comment fonctionne l'argent, il dort et l'argent arrive quand même. Pendant que toi, tu te lèves très tôt pour aller poursuivre l'argent. Une fois, je vois quelqu'un dans la rue il y a quelques jours et je lui dis, oh, comment tu vas? Il me dit, oh, mais je cherche l'argent. Non, on ne cherche pas l'argent. Si tu cherches l'argent, tu ne le trouveras jamais. Cherche Dieu. Et il te donnera la sagesse pour créer de la richesse. Amen. On ne cherche pas l'argent. L'entrepreneur ne court pas après l'argent. L'entrepreneur a mis en place des systèmes, des mécanismes, des business qui génèrent de l'argent sans qu'il ne fasse rien. C'est la différence entre le riche et le pauvre. Qu'est-ce qui fait qu'un riche est riche, plus riche que riche, et qu'un pauvre est pauvre, plus pauvre que pauvre? C'est parce que tout simplement, le riche... Bon, je ne sais pas comment dire ça, mais... Le riche... Le riche a compris ce qu'on appelle créer des actifs. Le pauvre, il vit dans le passif. L'actif, c'est un système, un mécanisme ou encore une entreprise qui tourne seule et qui génère de l'argent 24 heures sur 24. C'est pour cela que le riche, il est tout le temps au golf. Il ne fait rien et il rentre son compte en banque est toujours plein. Le pauvre qui cherche l'argent, il est dans le passif, c'est-à-dire il est dans les dépenses. Le pauvre, il s'est créé des mécanismes ou encore il a une vie qui l'amène à tout le temps faire sortir l'argent. Il passe son temps à dépenser l'argent. Alors que le riche, lui, il crée des mécanismes qui vont attirer l'argent. Et c'est pour cela que j'ai dit avant-dernière position, il a un intérêt particulier, l'entrepreneur, selon Dieu, pour l'argent, qui est son serviteur le plus fidèle. Il n'y a pas pire maître que l'argent. C'est pour ça que Jésus-Christ a dit, nul ne peut servir de maître, mammon ou Dieu. Parce que l'argent, c'est-à-dire mammon, si tu es son esclave, il va te faire ça dur. C'est pour cela qu'il y a beaucoup de gens qui, après des années, après avoir bâti des empires financiers, se suicident. Parce qu'ils se rendent compte qu'ils sont restés des années, toute une vie, à travailler pour l'argent. Ils étaient esclaves, malheureux, et c'est pour ça qu'ils se suicident. Et le pauvre, il dit, oh, mais avec tout cet argent, mais donnez-moi ça, je serai l'homme le plus heureux du monde. Waouh, t'as rien compris. Autre point aussi, il aime la liberté et l'autonomie. Il est indépendant, il est marginal. L'entrepreneur, si vous voulez embrasser la mentalité d'entrepreneur pour entreprendre, vous devez apprendre à aller dans le sens contraire du troupeau. Tout le monde va dans le salariat. Toi, tu dis, moi, je vais entreprendre. Tout le monde épargne en temps de crise. Toi, tu dis, moi, j'investis. Moi, j'investis. C'est un créateur de richesse. Un créateur de richesse. Et on va clôturer. On va clôturer avec un point extrêmement important qui est de comprendre les concepts des clés du royaume pour entreprendre. Rappelez-vous d'un passage. Un jour, Jésus-Christ envoie les disciples se balader. Ils ont fait tout un tas de miracles. Ils reviennent. Quand ils reviennent, Jésus-Christ leur dit, « Qui dit-on que je suis ?» Tu es le prophète tel, Élie, Jérémie, tout ce qu'on... Voilà. Et vous, que dites-vous que je suis ? Personne n'a voulu répondre. Parce que personne ne savait vraiment qui il était. Et un dénommé Pierre, qui était l'un des disciples, Simon Pierre, dit, tu es le Christ, tu es le Messie, tu es celui qui doit venir. Messie est un mot, à son époque, qui est un mot très, très, très dangereux à utiliser. Parce que Messie voulait dire le roi qui était loin. Donc c'est pour ça que Jésus-Christ, juste après, leur dit, ne dites à personne que je suis le Messie. Parce que si vous dites ça, on est mort avant le temps. Il ne faut pas dire ça, hein, les enfants. Il dit, tu es le Christ. Et là, Jésus-Christ fait une déclaration très puissante. Et moi, je te dis que tu es Pierre. Et que sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai quoi ? Les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. Et ce que tu déliras sur la terre sera délié dans les cieux. Que devons-nous comprendre ici ? C'est que nous, aujourd'hui, nous avons en notre possession ce que Jésus-Christ a appelé les clés du royaume des cieux. L'église. Sur cette déclaration, Pierre, je bâtirai quoi ? Mon église. Je vais vous dire ce que c'est que l'église. Un jour, j'ai posé la question à Dieu et j'ai dit, Seigneur, explique-moi ce que c'est que l'église. Église vient d'un mot grec. Le mot église, quand Jésus-Christ dit, je bâtirai mon église ici. Rentrez dans le grec et vous allez trouver que c'est un mot grec que l'on prononce ecclesia. Ecclesia, qu'est-ce que c'est ? Ecclesia veut simplement dire en grec le Sénat. Ecclesia est un mot qui n'a pas été inventé par Jésus. Ecclesia est un mot qui a été inventé par le peuple grec. Et qu'est-ce que c'était que l'ecclesia ? L'ecclesia était un groupe de personnes choisies directement par l'empereur et qui avaient été positionnées autour de l'empereur et qui étaient là simplement pour écouter en permanence la pensée de l'empereur et ensuite aller le traduire en loi pour l'imposer au peuple. C'était ça l'ecclesia. Donc c'était des gens très privilégiés qui étaient toujours très proches du roi. Et Jésus-Christ, c'est pour ça qu'il précise, mon église, moi aussi je veux bâtir mon ecclesia. Parce qu'à son époque, César avait aussi son église. Donc l'église que nous sommes ce qu'on appelle le Sénat. Nous sommes un corps de personnes qui avons été choisies directement par le roi, qui avons une intimité particulière avec lui, à qui il révèle des secrets. Et à cette ecclesia, à ce Sénat, à ce groupe de personnes très privilégiées, il dit, je vais vous donner les clés du royaume. Les clés du royaume. Chaque nation possède en elle des lois qui permettent à la société de fonctionner. Ces lois sont régies par un document que l'on appelle la constitution du pays. Amen. La constitution du pays. Et cette constitution nous impose ce qu'on appelle un cadre juridique dans lequel nous devons tous fonctionner, auquel nous devons tous nous soumettre. Vous avez déjà entendu le vieil adage qui dit « Nul n'est censé ignorer la loi ». Parce que tout simplement, nous vivons tous dans une nation, dans un pays. Donc tout le monde est censé connaître la loi. Et ce cadre juridique-là, Jésus-Christ l'appelle les clés du royaume des cieux. Et il dit, c'est dans ce cadre juridique-là que vous devez apprendre à fonctionner, pour pouvoir réussir. Avoir une clé sans pouvoir identifier à quelle serrure elle appartient ou qui ne correspond pas à une serrure en particulier, c'est aussi décevant que de ne pas avoir de clé. Ça ne vous est jamais arrivé de trouver des clés dans la maison et puis vous ne savez pas à quoi elles servent. En fait, vous avez en votre possession des clés, mais vous ne pouvez pas les utiliser. Si tu es assis dans une voiture et que tu dis « voiture démarre !» Quelqu'un viendra à côté et dira « mais prends les clés !» Elle ne démarrera pas sur tes cris. Et en fait, c'est ce qu'on retrouve aujourd'hui dans beaucoup d'églises. On voit des enfants de Dieu qui sont là, qui crient, qui supplient, qui se roulent par terre. Mais Dieu dit « mais active les clés, ma fille !» Parce que la manière dont tu fais là, ça ne va rien déclencher. Hein. Le ciel ne s'ouvrira pas pour ta vie. Il faut juste que tu découvres les clés. Les clés. Que quelqu'un dise les clés. Nous avons, nous, l'Église, nous, les enfants de Dieu, nous avons un énorme trousseau de clés entre nos mains, mais nous ne savons pas les utiliser. Pourtant, Jésus-Christ a dit lui-même, Matthieu 18, 16, je vous ai donné les clés. Quand vous voyez Jésus-Christ tout au long des évangiles opérer, faire tout un tas de miracles extraordinaires, les gens disaient, c'est un homme extraordinaire. En fait, Jésus-Christ, je peux paraphraser ainsi, disait, mais non, j'ai juste les clés, je les utilise. Je les utilise. Rappelez-vous l'exemple, l'histoire de la multiplication des pains. Jésus-Christ explique aux disciples la parabole du semeur, quand vous rentrez dans le contexte. Et dès qu'il sort de la maison, la Bible dit que Jésus-Christ vit la foule. Et il fut pris de compassion vis-à-vis de la foule, parce que c'était des brebis comme des bergers. Et là, les disciples viennent près de Jésus et lui disent, « Seigneur, renvoie la foule, il fait nuit, ils sont fatigués. » Jésus-Christ dit, « Mais donnez-leur vous-même à manger. Je viens de vous enseigner la parabole du semeur. » Parce que lorsqu'ils sont dans la maison et qu'ils demandent à Jésus, Matthieu 13, mais ça veut dire quoi ton histoire de un semeur vint et jeta une semence, et etc. Les oiseaux vinrent manger, on ne comprend rien en fait, explique-nous. Et là, Jésus-Christ leur dit une chose, une parole très importante. Il dit, il vous a été donné à vous, vous, l'Ecclésia, l'Église, de connaître quoi? Les mystères du royaume des cieux. C'est-à-dire les clés pour fonctionner. Et ces clés, les clés du royaume, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Josué 1,8 dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. C'est l'un des seuls passages de toute la Bible où Dieu utilise le mot entreprise et réussir au même moment. Tu auras du succès. Mais tu auras du succès dans tes entreprises et tu réussiras. Comment? Si ce livre, c'est-à-dire si ce cadre juridique, si ce livre dans lequel sont contenues les clés du royaume des cieux, si ce livre tu le maîtrises, si ce livre tu le comprends. C'est pour cela que la Bible est le livre le plus important sur la terre. Parce que c'est dans la Bible que se trouvent toutes les clés de notre épanouissement personnel. Malheureusement, la plupart des gens rejettent ce livre. Quand tu lis la Bible, tu n'es pas en train de lire un livre religieux. Tu es en train de lire la constitution du royaume des cieux que Dieu a remis à ses enfants pour pouvoir être heureux sur la terre. C'est pour cela que lorsque tu lis la Bible, tu dois passer ton temps à chercher ce qu'on appelle les clés, des principes. Et la Bible est remplie de clés. Quelles sont ces clés? Mais ces clés, c'est ce qu'on appelle des versets bibliques. Chaque verset biblique est une clé potentielle. Quand tu as un problème, tu prends la parole et tu cherches la clé à ton problème. Est-ce qu'on me suit? Tu cherches la clé à ton problème. Et pourquoi Dieu dit, c'est alors que tu réussiras? Il utilise ce mot pourquoi? Parce qu'il sait qu'on veut réussir. Il sait qu'on veut réussir dans quoi? Dans nos entreprises. Bien entendu, ça ne touche pas seulement l'entrepreneuriat ici. Ça touche tous les aspects de notre vie. Les clés. Et nous avons en notre possession les clés. Mais ce n'est pas parce que Jésus-Christ nous a donné les clés qu'on peut les utiliser facilement. Qu'on peut les utiliser comme on veut pour être heureux. Ce qui fait qu'aujourd'hui nous sommes malheureux, c'est parce que tout simplement, nous ne savons pas comment utiliser les clés. Il y a des gens aujourd'hui qui sont malades, qui n'expérimentent pas la guérison. Bien entendu, il y a dans tout ça la miséricorde de Dieu. Ok, que quelqu'un dise Amen. Mais il y a aussi des clés que la personne peut activer. La multiplication des pains. Les disciples disent à Jésus, mais renvoie la foule. Et Jésus-Christ dit, mais je viens de vous enseigner la parabole du semeur. Je viens de vous enseigner les clés. Donnez-leur vous-même à manger. Mais Seigneur, nous n'avons rien. Qu'avez-vous? Nous n'avons que 2 pains et 3 poissons. Et il dit, mais c'est suffisant pour activer la clé. Vous savez quelle clé il a activée? Là, il dit, Jésus-Christ prit le pain et le poisson et rendit grâce. Voici la clé. La gratitude. Rendre grâce. Et rendre grâce a créé la multiplication des pains. Est-ce qu'on me suit? La clé, que quelqu'un dise les clés. Oui, les clés du royaume. Et avoir les clés ne te garantit pas leur utilisation. Pour pouvoir utiliser les clés, il y a une clé, et on va clôturer avec ça, il y a une clé qui s'appelle la clé des clés. Est-ce qu'on peut dire la clé des clés? La clé des clés. Et cette clé des clés qui nous permet d'utiliser toutes les clés du royaume, je dis bien toutes les clés du royaume, elle est donnée ici. Luc 8, 9. Les disciples s'approchèrent alors de Jésus et lui demandèrent, pourquoi leur parles-tu en utilisant des paraboles? Vous avez reçu, vous, la connaissance des secrets du royaume des cieux, mais eux ne l'ont pas reçu. Car celui qui a quelque chose recevra davantage et il sera dans l'abondance. Mais celui qui n'a rien, on élèvera même le peu qu'il pourrait lui rester. La clé des clés ici est donnée. C'est ce qu'on appelle la connaissance. Voici la clé qui vous permettra d'utiliser toutes les clés. Quel que soit le domaine, familial, intime, professionnel, business, entrepreneuriat, quand vous comprenez les clés, c'est pour cela qu'un jour, quand j'ai compris cela, j'ai dit, Seigneur, alors je ne finirai pas ma vie pauvre. Je ne finirai pas ma vie malheureux. Parce que tu m'accorderas la grâce de comprendre les clés pour pouvoir activer toutes ces choses et les avoir dans ma vie. Et aujourd'hui, ma vie ne se résume qu'à ça. À courir et être à la recherche des clés. Quand tu n'as pas d'argent, tu es ce qu'on appelle, dans le jargon mondain, fauché. Tu galères. Tu dis, mais ce n'est pas normal que je galère comme ça. Pourtant, j'ai fait l'école, je ne trouve pas de travail, je n'ai pas d'argent. Et en plus, on parle d'entrepreneuriat, mais je n'ai même pas d'argent pour créer mon entreprise. Arrête de te focaliser sur les points négatifs et sur ce qu'il te manque. Focalise-toi comme Jésus a fait avec les poings et les poissons. Focalise-toi sur ce que tu as. Et tu as toujours quelque chose pour créer le miracle. Toujours. Tu as toujours quelque chose. Tout ce qu'il faut, c'est que tu aies la connaissance de la clé qu'il faut. La connaissance. Un jour, j'avais un problème. Enfin, j'avais pas un problème. J'avais une situation à résoudre. Et en toute humilité, je le dis, il fallait que je trouve 1 million de francs CFA. J'ai dit, ok, 1 million de francs CFA à Libreville, c'est beaucoup d'argent. C'est beaucoup d'argent. Et j'étais avec quelqu'un, et là, je me suis moi-même motivé. J'ai dit, ok, je vais galvaniser ma foi. J'ai dit, ok, dans 2 semaines, j'aurai ces 1 million. Et je suis allé dans la prière. Et le Seigneur me dit, trouve la clé. Et tu auras ton million. Je me suis assis. J'ai regardé à mes dons. J'ai fait l'inventaire de mes dons et de mes talents. J'ai regardé à mes capacités, à mes aptitudes. Et là, je lui ai dit, mais j'ai des connaissances. Je connais des choses. J'étais à l'école, je ne suis pas bête. Je pense, je réfléchis. Et avec mon bagage intellectuel, je suis capable de mettre en place une formation de 2 heures sur un sujet déterminé concernant mon domaine. Le Seigneur me dit, alors, qu'est-ce que tu attends? Crée le produit et active la clé. Je me suis assis pendant 15 jours chez moi, pendant à peu près une semaine plutôt. J'ai mis en place une formation. Je suis allé dans une imprimerie, pas loin d'ici, sur le bord de mer. J'ai imprimé des cartes de visite, Luc Ondias, consultant dans tel et tel domaine. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris mon sac sous le soleil en taxi et je suis allé cogner en entreprise. Excusez-moi, je propose telle formation. Non, monsieur, nous n'avons pas besoin de vous. Excusez-moi, je propose telle formation. Téléphone, je propose telle et telle formation. Jusqu'au jour où une personne dit, ah, cette formation-là, ça nous intéresse, monsieur, mais il n'y a pas beaucoup de Gabonais qui peuvent la donner. Je suis venu et j'ai vendu, on va beaucoup parler de vente tout à l'heure, j'ai vendu ma formation. Et quand il me dit, ok, on peut vous la faire à 500 000, j'ai dit, non, non, monsieur, attendez, vous avez vu la qualité de la formation? S'il vous plaît. C'est 1 million de francs, s'il vous plaît. Monsieur, on a vraiment besoin de cette formation, mais 1 million, c'est beaucoup. J'ai dit, soit vous voulez la formation pour augmenter les capacités de vos collaborateurs, et c'est 1 million, parce qu'en tant que chef d'entreprise, 1 million, franchement, regardez l'entreprise, c'est rien 1 million pour vous, franchement. Il m'a dit, bon, laissez-moi réfléchir. 30 minutes après que je sois parti du bureau, il me fait, monsieur Ondias, adjugé, je vous donne les 1 million. J'ai dit, Seigneur, j'ai trouvé mes 1 million. Je suis arrivé, j'ai fait ma formation, elle a duré 3 jours. Pendant 3 jours, j'ai tout déversé. Les gens étaient tellement challengés, galvanisés. Ils sont allés dire à leur patron, donne-lui, c'est 1 million et on en veut une autre formation. Et aujourd'hui, je suis en contrat avec cette entreprise. Les clés. Amen. Et la clé des clés, c'est la connaissance. La connaissance vous amènera à ce que la parole, et le roi Salomon insiste beaucoup dessus, vous savez. Je vous le dis vraiment entre nous, lisons beaucoup le livre de la sagesse, le livre des proverbes. Il y a énormément de choses, de richesses là-dedans. Il y a 3 mots extrêmement importants qui reviennent dans le livre de Salomon. Il y a le mot connaissance, souvent traduit dans certaines versions science, mais c'est toujours le mot connaissance derrière. Il y a un autre mot qui est sa sœur, toujours à côté, l'intelligence. Vous n'avez pas remarqué, on parle toujours d'intelligence à côté de la connaissance. Et il y a un autre mot, c'est le grand frère de la famille. Il s'appelle sagesse. Connaissance, intelligence et sagesse. C'est une famille. Ils sont inséparables, ces trois-là. Je vais vous dire la différence entre les trois, parce que beaucoup ne savent pas ce que c'est que les trois. La connaissance, et c'est la clé des clés, c'est ni plus ni moins que l'information. L'instruction. Quand vous avez l'information, et aujourd'hui, la plus grande guerre qui se déroule dans le monde, c'est l'information. Vous allumez la télévision, les chaînes qui dominent, ce sont les chaînes d'information. Et les chaînes d'information qui dominent, les chaînes d'information les plus connues, ce sont celles qui influencent le plus les mentalités des gens. Il y a certaines chaînes d'information dont je tairai les noms ici, ne les regardez pas. Je connais des gens, ils se lèvent le matin, tout de suite, tic, ils mettent les chaînes d'information et toute la journée, ça passe. Alors que la moitié des choses qu'ils racontent sont fausses. Et ils sont en train d'influencer ton jugement, ta façon de penser pour te maintenir dans quoi? L'esclavage. On va te faire croire que dans le monde, il n'y a que ce qui se passe en Syrie qui est l'essentiel du monde. Faux! La Terre, elle est grande, hein? Il y a beaucoup de choses qui se passent sur Terre. Il n'y a pas que ce qui se passe en Syrie et en France. Hein? Non. Mais toi, tu passes ton temps à regarder que ça. Tu manges leur information et ils te tiennent dans l'esclavage. On te fait comprendre qu'il y a la crise et tu crois qu'il y a la crise. Donc, je garde mon boulot parce qu'il y a la crise, parce que c'est ce qu'on t'a fait croire. La connaissance, c'est l'information, l'instruction. Quand vous obtenez la connaissance et qu'ensuite vous comprenez cette information, vous devenez intelligent. Vous devenez intelligent. Et quand vous devenez intelligent, c'est-à-dire que vous avez compris l'information et que vous comprenez maintenant comment l'appliquer au bon moment dans sa vie, là vous devenez sage. Est-ce qu'on me suit? Vous devenez sage. Celui qui connaît les clés et qui sait les utiliser au bon moment, il est sage. Il est sage. C'est pour cela qu'il faut lire la parole, la méditer, la comprendre et parvenir à la connaissance. On va finir avec ce proverbe qui dit, Proverbe 3, verset 13. Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse et l'homme qui possède l'intelligence. Car le gain qu'elle procure est préférable à celui de l'argent et le profit qu'on en tire vaut mieux que l'or. Elle est plus précieuse que les perles, elle a plus de valeur que tous les objets de prix. Dans sa droite est une longue vie, dans sa gauche la richesse et la gloire. Ses voies sont des voies agréables et tous ses sentiers sont paisibles. Elle est un arbre de vie pour ceux qui la saisissent et ceux qui la possèdent sont heureux. Heureux. Amen. La sagesse, la connaissance et l'intelligence, les clés du royaume. Et ce sont les clés que nous allons voir cet après-midi. Amen. On va se lever s'il vous plaît. Si j'ai pris le temps d'insister, sur les clés, c'est de comprendre qui nous sommes, de comprendre quel est notre rôle, quel est notre but et ce à quoi il nous appelle. Chacun d'entre nous, nous sommes appelés dans des domaines bien différents. Chacun d'entre nous, nous avons des trésors inestimables en nous. Il faut regarder à ces trésors, prendre le temps de les étudier, prendre le temps de les libérer, prendre le temps de les développer et ensuite, ça te permettra de te lancer dans le bon domaine. Parce que quand tu découvres ton don, quand tu comprends ton don et que tu choisis le bon domaine, non seulement tu travailles avec passion, tu entreprends avec passion et tu créeras de la richesse beaucoup plus naturellement que si tu étais dans un autre domaine. Amen. Alors voilà pourquoi je voudrais que tu élèves la voix, que tu rendes grâce à Dieu et que tu lui dises, Seigneur, accorde-moi la révélation de ta connaissance et de la connaissance des clés. Élève la voix et dis-lui, Seigneur, merci pour les clés du royaume. Parce que tu n'es pas mort pour une religion, tu es mort pour un royaume. Et ce royaume, tu nous l'as donné, Luc 12, 32. Ne crains point, petit troupeau, parce que le Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Et il dit encore, cherchez premièrement le royaume des cieux et la justice de Dieu. Et toutes ces choses par lesquelles vous courez, toutes ces choses auxquelles vous aspirez, toutes ces choses que vous désirez tant, toutes ces choses pour lesquelles vous travaillez avec souffrance, toutes ces choses qui ne vous épanouissent pas. Jésus-Christ dit, cherchez premièrement le royaume, parce que le jour où vous comprendrez le royaume, le jour où vous comprendrez les clés du royaume, votre vie sera transformée. Vous ne souffrirez plus, vous ne souffrirez plus. Merci Père, tu es dit. Merci Père pour les clés du royaume. Merci Père pour ta grâce. Merci Père pour le royaume. Merci parce que c'est notre possession, c'est notre héritage en Christ. Merci Seigneur pour toutes ces informations. Merci pour la clé des clés, cette clé qui libère. Parce que Jésus-Christ a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Vous connaîtrez la vérité, c'est-à-dire vous parviendrez à la connaissance qui libère. Vous parviendrez à cette connaissance-là qui vous amènera à opérer à une autre dimension. Vous parviendrez à cette connaissance-là qui fera de vous une personne différente. Vous parviendrez à cette connaissance-là qui vous distinguera dans votre génération. Vous parviendrez à la connaissance. Seigneur, merci, tu es digne. Oh. Et ce matin, nous voulons encore te supplier. Nous ne sommes pas venus ici en tant que spectateurs. Nous sommes venus à la recherche de toi. Que la gloire et la puissance te reviennent. Tu es notre roi, tu es celui qui nous a choisis, celui qui nous a donné les clés. Que la gloire et la louange
monte vers toi.
Le parfum, comme un parfum d'une agréable odeur.
Que la gloire et la puissance.
Et la puissance. Toi, notre roi, Jésus-Christ. Élève la voix. Aujourd'hui, prends possession de ton héritage.
Monte vers toi, Père.
Et aujourd'hui, ce n'est pas une religion que je t'ai annoncée. Je t'ai simplement annoncé une réalité. Je t'ai annoncé une réalité spirituelle dont tu es ignorant. Tu es là, tu vis, mais tu ne sais pas qu'autour de toi, il y a des choses qui se passent. Et tu es ignorant. Et c'est parce que tu es ignorant que tu es esclave. Mais Dieu veut que tu sois libéré de cet esclavage. Et cette libération commence d'abord par naître de nouveau. Quand tu nais de nouveau, tu te reconnectes à ton Créateur. Quand tu nais de nouveau, Dieu te révèle tes dons, tes talents et le but pour lequel il t'a créé. Tu es digne, Seigneur. Quand tu te reconnectes à lui, il te révèle les dons, il te révèle le domaine dans lequel il t'appelle, il te révèle les clés, il te donne accès à cette connaissance-là qui libère, cette connaissance-là qui fait de toi un fils, une fille, cette connaissance-là qui fait de toi quelqu'un de différent. Les gens autour de toi te regardent et ils disent, mais pourquoi cette personne est si différente des autres? C'est parce que tout simplement tu es en possession d'un trésor inestimable que Jésus-Christ a appelé les clés du royaume. Seigneur, merci pour les clés. Tu es digne de notre louange et de notre adoration. Merci, Père. Merci, Père. Merci, Seigneur. Merci, Père. À toi soit la louange. Tu es digne. À toi soit la louange et toute l'adoration. Digne de gloire et digne de louange. Nous te bénissons pour tout ce que tu es, pour tout ce que tu fais. Nous te bénissons, nous te rendons grâce. Seigneur, merci encore pour ces moments. Merci pour ces temps d'instruction, ces temps dans lesquels tu nous parles, dans lesquels tu éveilles notre conscience. Tu ouvres notre esprit à la sagesse, à l'intelligence et à la connaissance. Merci Seigneur parce que toutes ces paroles ne tombent pas, Seigneur, dans des terres stériles, mais dans des terres fertiles, afin qu'elles portent beaucoup de fruits pour que nos vies soient transformées. Seigneur, merci parce que l'œuvre que tu as commencée, Seigneur, dans la vie de chacun, Seigneur, est une œuvre parfaite. Merci parce que tu l'achèveras. Merci pour l'œuvre que tu as commencée, Seigneur, dans la vie de toutes ces personnes et dans la mienne. Si chacun d'entre nous, nous avons pris le temps de venir jusqu'ici, c'est parce que nous avons soif de toi. Nous avons soif de connaissance. Nous avons soif d'aller plus loin avec toi. Nous avons soif d'être heureux dans notre vie et de manifester les dons et les talents, le potentiel. Parce que tu es le Dieu omnipotent. Nous avons soif de manifester tous ces trésors inestimables que tu as déposés en nous. Et merci parce qu'aujourd'hui tu nous enseignes et tu nous révèles qu'en nous, il y a le plus grand investissement que tu aies pu faire en l'homme, c'est-à-dire ton esprit, Seigneur. Et ton esprit est appelé l'esprit de sagesse, l'esprit de connaissance, l'esprit d'intelligence, l'esprit de grâce, l'esprit parfait, l'esprit de Christ. Et c'est cet esprit-là qui habite en chacun d'entre nous. Alors merci encore, Seigneur, pour ces moments et merci pour la suite de cette journée.
conduis, inspire, dirige et que, Seigneur, tout soit fait pour ta gloire. À toi soit la louange, l'adoration dans le nom de Jésus-Christ et qu'un véritable adorateur acclame le Seigneur. Amen.
Nous espérons que vous avez été richement édifiés par cet enseignement. Pour plus d'informations au sujet de l'église La Maison du Bâtisseur, vous pouvez vous rendre sur notre site internet www.lamaisondubâtisseur.com. Si vous désirez avoir d'autres produits enregistrés à La Maison du Bâtisseur, vous pouvez soit commander directement en ligne ou téléphonez-nous au 04 65 60 56 ou envoyez-nous votre demande par email à l'adresse suivante contact@lamaisondubâtisseur.com. À très bientôt et que Dieu vous bénisse.